Je m'appelle Paul, j'ai 25 ans. Je suis parti au Togo il y a 2 ans, en 2019. À l'époque, je cherchais un stage à l'international pour valider mon master et j'avais pas envie de faire un stage comme les autres. J'avais envie que ce soit un stage où j'allais être autonome, j'allais pouvoir être créatif, un peu en tant qu'entrepreneur et en même temps plutôt en tant que scénariste documentariste. Et je savais pas encore exactement ce que ça allait être, mais une amie à moi m'a envoyé une offre de recherche de documentariste dans une ONG au Togo. Il cherchait quelqu'un qui était un petit peu sensible aux questions de préservation de l'héritage culturel là-bas. Je connaissais pas très bien le Togo, pas très bien non plus la culture locale, donc le vaudou. Mais j'ai tout de suite été séduit par cette opportunité et j'ai décidé comme ça, un petit peu sur un coup de tête, d'en faire mon stage à l'international. Je me suis retrouvé du coup assez rapidement dans un avion en direction du Togo. Donc un pays que je connaissais très peu. Je savais juste que c'était dans le golfe de Guinée, proche du Bénin. Que la culture là-bas, c'était le vaudou, que le vaudou était né au Togo et au Bénin. On le connaît surtout en Haïti actuellement, mais il faut pas oublier voilà que c'est vraiment le berceau de cette culture. Et du vaudou, je connaissais encore moins de choses. J'avais évidemment pas mal d'a priori autour de la magie noire, puisque c'est un peu ce qui se véhicule aussi à propos de cette culture quand on grandit en Europe. Et j'avais évidemment plein d'appréhensions avec une mère assez inquiète de me voir partir dans un pays comme celui-là, avec une culture assez différente de la nôtre, mais qui heureusement aussi m'a beaucoup aidé à préparer le voyage, puisque j'y serais peut-être allé un peu plus en touriste si elle n'avait pas été là.
Vous écoutez Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Deux fois par mois, je reçois un ou une invitée qui se raconte au travers d'un voyage qui l'a marqué. Dans cet épisode, Paul raconte le Togo. Avec lui, on a parlé de vaudou, de sagesse et de viande avariée.
J'ai bourlingué à travers le monde. Le premier souvenir que j'ai quand j'arrive au Togo, c'est l'aéroport de Lomé. C'est un aéroport qui était assez banal, voilà, de capitale de pays d'Afrique. Mais c'était un aéroport dans lequel je suis arrivé avec pas mal de retard, du coup en plein milieu de la nuit. Et il y avait un homme, Flo Flo, que j'avais un petit peu vu par WhatsApp, qui était le directeur en fait de l'ONG, qui m'a accueilli, qui m'a semblé très détendu. Ça m'a mis à l'aise immédiatement. On est sorti ensuite de l'aéroport, on a passé les contrôles militaires. On s'est retrouvé du coup à l'extérieur de l'aéroport, qui est lui-même plutôt en périphérie de la ville, donc un petit peu au milieu de nulle part, en plein milieu de la nuit. Pas de taxi, pas de voiture qui nous attendait. Il y avait très peu de passages, pas de moto. Flo Flo était à pied. Et du coup, je comprends assez vite qu'en fait, il n'y a pas de véhicule qui a été, il n'y a pas de trajet qui a été organisé du coup pour nous ramener à la maison. Et Flo Flo s'approche de quelques hommes comme ça qui dormaient sur leur moto pour négocier le trajet jusqu'à la maison. Et ces hommes avaient des tarifs qui étaient un petit peu élevés d'après Flo Flo. Donc, on a attendu plusieurs longues minutes au milieu de nulle part, en attendant qu'un de ses chauffeurs daigne baisser ses prix pour qu'on puisse monter avec lui et rentrer à la maison. Et moi, je savais pas du tout où est-ce qu'on allait à ce moment-là. Je connaissais pas non plus ses pratiques. Et donc, je me retrouve sur le Zem, donc sur cette moto, à traverser Lomé. Et on arrive comme ça à l'appartement de Flo Flo, qui surplombait un petit peu Lomé. Et Lomé, c'est une ville qui est vraiment au bord du golfe de Guinée, donc vraiment au bord de la mer. Et on était un petit peu à la lisière entre ce territoire maritime et en même temps cette ville à la fois urbanisée, mais qui en même temps garde des choses un peu sauvages, un peu naturelles, avec des lampadaires comme ça qui éclairaient à perte de vue, et puis la mer et le port de Lomé qui se dévoilaient. Et ça m'a laissé une impression assez jolie de ce contraste de territoire avec Flo Flo, avec qui je faisais connaissance, qui m'explique un peu son parcours de repenti, qui a d'abord été producteur de films plus ou moins légaux au Nigeria, qui a décidé ensuite de devenir sociologue, donc qui a repris des études universitaires, puis a décidé de donner un sens plus fort à sa vie en créant son ONG. Prend juste le temps de prendre une douche dans une espèce de salle de bain circulaire qui est connectée à une gouttière via un tuyau d'arrosage qui permet de se laver. Et je me suis endormi, j'ai en vérité assez bien dormi cette première nuit très mystérieuse. Le lendemain, je me fais réveiller par Flo Flo qui m'indique très tôt que le chauffeur de Zem nous attend en bain pour nous amener hors de Lomé. À ce moment-là, je comprends en fait que je ne vais pas passer mon séjour de 6 semaines à Lomé, mais ailleurs. Encore une fois, c'est quelque chose que je ne savais pas. Mais encore une fois, je suis totalement en confiance et je suis là pour vivre quelque chose. Donc on se retrouve sur le Zem. Et au Togo, à cette période-là de l'année, donc en été, la lumière est très particulière. À cette période-là de l'année, il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Et le soleil se lève très vite et se couche très vite. Il n'y a pas vraiment de coucher de soleil, il n'y a pas de moment si long où on sent le soleil se coucher. Et quand le soleil est levé, comme le ciel est tapissé de nuages, la lumière que répand le soleil, elle est très diffuse. Et on voit pas le soleil se déplacer au moment de la... enfin, pendant la journée. Donc on n'a pas de repère vraiment dans le temps. Et en même temps, il y a ce zem comme ça qui traverse à toute vitesse, d'abord la ville de Lomé, puis ensuite des paysages beaucoup moins urbains, davantage de jungle, on croise davantage d'animaux, des troupeaux, des bergers, d'abord beaucoup de voitures, puis des motos, puis des vélos, puis juste des personnes à pied. Donc on sent aussi qu'on s'éloigne d'un rythme un peu effréné de la ville pour aller vers des paysages beaucoup plus paisibles et beaucoup plus des paysages de jungle. Et je découvre comme ça tous ces paysages très nouveaux. Et c'est une des premières très fortes impressions que j'ai de mon voyage au Togo, c'est d'être perdu dans le temps, avec cette couche de nuages au-dessus de moi, perdu dans l'espace avec tous ces paysages que j'ignore et que je découvre à toute vitesse, en même temps en train de planer sur ce zem, et j'ai cette impression d'être en train de rêver alors que je suis éveillé. Et cette sensation, elle ne m'a pas quitté tout au long du voyage. Et elle a vraiment imprégné voilà, tout ce que j'y ai vécu, et ça a donné aussi à ce voyage quelque chose d'un peu irréel, mais qui lui a donné aussi toute sa valeur. Au bout de 2 heures, on arrive dans un village donc, qui s'appelle Kévé-Assaoun. Kévé, c'est un peu la grande ville, c'est le long du goudron. Généralement, quand il y a un goudron au Togo, ça indique la présence d'un centre-ville. Donc on arrive comme ça dans ce centre-ville où je remarque quelques insignes qui me rappellent quand même la France, parce que Canal+ est un petit peu présent, notamment là-bas. Donc j'ai quelques repères, mais en même temps, je vois bien qu'il y a des stands de restauration qui vendent des choses à manger que je connais absolument pas. Il y a beaucoup de choses avec de la friture, des beignets, beaucoup de féculents. À l'époque, j'étais végétarien et c'était pas forcément des choses que j'avais l'habitude de manger. Et puis on arrive ensuite à Assaoun, qui est le petit village juste à côté, qui est presque comme jumelé avec Kévé, qu'on rejoint en fait à travers des petits chemins, à travers la jungle. Et Assaoun, c'est tout petit. Ça ressemble pas du tout à une ville et c'est plutôt des maisonnettes comme ça faites avec des branches d'arbres. C'est plutôt des abris qui sont habités là-bas plus que vraiment des maisons fixes. Sauf la maison de l'ONG du coup où j'étais censé travailler et écrire mon film. Puis on entre dans la maison. À côté de la maison, il y a une petite sculpture dont j'ai appris que ça s'appelait un yegba. Les yegba, en fait, c'est des petites statues qui sont protectrices. Elles sont associées à une divinité qui protège les foyers. Et j'entre donc dans cette maison avec cette présence du yegba bienveillante. Et je découvre comme ça un sas d'entrée. Il y a des photos qui sont exposées de reporters qui sont passés avant moi, qui ont documenté justement le sujet du vaudou, qui sont exposées sur les murs. Le soir, on se retrouve avec les Togolais de l'association pour boire un verre. Et en fait, il y a plusieurs rituels de bienvenue quand on arrive au Togo. Donc à la fois le yegba, la petite divinité protectrice à l'entrée de la maison, mais aussi autour du togogin. Le togogin, donc, c'est un alcool qui est local, qui est produit avec de la palme, qui est un alcool que tout le monde fait un peu chez lui de manière artisanale, et qui fait complètement partie aussi du lien social qu'on peut entretenir avec les personnes. Donc il est présent à toutes les bienvenues. Donc on est arrivé, on a goûté ce togogin, ça se boit dans des shots, c'est un alcool qui est assez fort. Fallait s'accrocher un petit peu au début. Et puis surtout, je remarque que Ekwe notamment renverse une partie du togogin sur le sol. Et il m'explique à ce moment-là qu'en fait ça fait partie des traditions. C'est une manière pour lui en fait d'honorer les ancêtres en leur partageant un peu de l'alcool qu'on allait consommer. Et autour de ce verre de Togojin, on fait les présentations. Donc Flo Flo s'était déjà présenté à moi, donc personnage un peu paradoxal, de repenti, très jovial, très souriant. Jules, qui est un autre membre de l'association, qui est un professeur de physique au collège et qui en même temps est un fervent, presque fanatique, je dirais, du vaudou, ce qui pour moi était complètement paradoxal à ce moment-là. Et Jules s'est vraiment affirmé dans sa revendication du vaudou pendant le séjour aussi, alors même qu'il était professeur de mathématiques et de physique. Danny, qui était un personnage beaucoup plus discret, qui a l'impression d'être un peu bloqué dans le temps, enfin c'est un problème existentiel dont il nous a beaucoup parlé pendant le voyage, et qui est un petit peu le druide de la maison. C'est-à-dire qu'il entretient les animaux, l'élevage, mais c'est aussi lui qui s'occupe du potager. Et ils ont ce qu'ils appellent une pharmacopée. Donc ils ont un petit jardin un peu plus loin dans lequel Danny stocke et fait grandir des plantes qui ont des vertus médicinales, ou alors certaines plantes qui sont en train de disparaître pour les protéger, en garder une trace. C'est un peu lui l'énergie finalement du groupe, l'énergie vitale, dans la mesure où c'est lui qui produit en fait ce qui est mangé. Et puis Ekwe, qui est un personnage plus énigmatique, qui est assez imposant physiquement, assez charismatique,
et qui est passionné par la culture française, qui est, je pense, la personne que j'ai rencontrée au Togo qui a été la plus curieuse de qui j'étais, mais qui en même temps avait une sorte de relation, voilà, encore une fois, assez paradoxale avec la France, à la fois de grande admiration et en même temps, par moments, je pense, de ressentiment. Et ces personnes que j'ai rencontrées, elles sont assez importantes dans mon voyage parce que c'est un peu à travers leur regard aussi que j'ai interprété les différentes choses qui me sont arrivées, que j'ai vécu aussi toutes ces expériences. Avant d'en dire un petit peu plus sur ce qu'est le vaudou et sur mon voyage en tant que tel, je pense que c'est important de présenter un petit peu ce qu'est la cosmogonie vaudou. Parce que la cosmogonie, elle est vraiment structurante du territoire, mais aussi de toutes les relations qu'on peut avoir avec les personnes là-bas. Donc quand on connaît cette cosmogonie, on arrive mieux à appréhender aussi tout ce qui peut nous arriver quand on part au Togo. Je pense que c'est un bon guide et quelque chose à bien connaître avant de partir. La cosmogonie vaudou, elle est hiérarchique, donc il y a une pyramide au sommet duquel siège Mavu. Mavu, c'est l'être suprême, et c'est un être qui est inaccessible. On ne peut pas y accéder ni par les sens, ni par la spiritualité, etc. Donc c'est ce qu'il y a de plus sacré dans le vaudou. Et il est d'autant plus sacré que juste après lui, il y a deux fleuves qui existent, le fleuve de l'oubli et le fleuve de la mémoire. Donc d'emblée, l'image qu'on pourra avoir de Mavu sera imprécise, puisqu'il est traversé par le fleuve de l'oubli. Mavu, il s'incarne ensuite du coup de manière fragmentée et partielle dans le monde Fa. Le monde Fa, il est constitué de 16 maisons. Ces maisons, on y appartient tous. À la naissance, on nous attribue une maison, et cette maison, elle va déterminer notre évolution, notre psychologie, les relations qu'on va avoir les uns avec les autres. Ce monde Fa, il est au-dessus de toutes les religions. Et quand on est vaudouisant, on peut devenir prêtre Fa, mais si on n'est pas vaudouisant, on ne peut pas le devenir. Et c'est intéressant, puisque ensuite, en dessous du monde Fa, vous avez le monde des religions, et le vaudou siège à côté des religions chrétiennes, à côté de l'islam. Mais le vaudou a la particularité d'être syncrétique, donc il intègre aussi toutes ces cultures à son culte. Il faut le voir vraiment comme un mélange de cultures, on peut voir des crucifix, on peut voir des croissants de lune, on peut voir des éléments de la prière musulmane, de même que la prière chrétienne au sein des cérémonies. Cette religion vaudou, elle s'incarne dans quatre éléments qui correspondent à quatre divinités. Il y a l'air, l'eau, le feu et la terre. L'air, la divinité qui est associée, c'est Agwe, c'est le dieu du vent. Mami Water, c'est la divinité qui est associée à l'eau. Ebieso, c'est la divinité du feu. Et Salpate, c'est la divinité de la terre. Quand on est tous associés à un élément. On a tous une divinité dont on est plus proche. Par exemple, moi, j'ai appris en partant au Togo que j'étais de l'élément air. Et c'est drôle parce que j'avais déjà eu des signes un peu de cette association avec cet élément avant même de partir. Donc il y a quelque chose d'un petit peu évident dans l'élément qui vous est transmis dans la culture vaudou. Ces éléments-là, vous pouvez ensuite y accéder en créant des artefacts. Les artefacts, c'est des fétiches. Donc c'est des petites sculptures, généralement, que les humains vont pouvoir construire, acheter et vendre pour accéder à ces divinités. Mais ce monde des fétiches, il est un petit peu bizarre, parce que comme il est économique, et qu'en même temps c'est de l'économie mêlée au sacré, les Togolais ont un peu une sorte de... Enfin, sont un peu hypocrites par rapport à lui. C'est-à-dire qu'ils ont un peu honte d'y croire, mais en même temps, ils ont une nécessité d'acheter ces fétiches. En dessous du monde des fétiches, donc, on a la sphère humaine, qui s'appelle Aglibomé, qui est en fait la matérialisation du monde visible, donc c'est le degré zéro de spiritualité. Et en dessous, on a la Terre, donc le monde ancestral, qui est lui aussi un monde invisible, avec les ancêtres notamment qui y sont présents. Et ce monde ancestral, il est connecté à Mavu, à l'être suprême. Donc la pyramide s'inverse par sa base d'une certaine manière. Enfin, le premier lieu que j'ai visité qui était dédié au vaudou, ça a été une forêt sacrée. C'était une toute petite forêt sacrée, dans un village perdu, assez loin de là où on habitait. Et cette forêt sacrée, elle avait la particularité d'avoir été plantée par Atiti. Atiti, c'était en fait le prêtre Fa du village, quelqu'un qui était très éduqué spirituellement, et qui a créé cette forêt sacrée, qui était l'architecte en fait de ce temple, de cette forêt qui est composée d'agbantins. Les agbantins sont des arbres qui sont sacrés, qui sont connectés à l'élément air. Et c'était intéressant parce que Atiti, pendant très longtemps dans sa vie, il n'a pas souhaité être prêtre Fa, contrairement à ce que son père désirait. Son père était lui-même prêtre Fa. Et du coup, Atiti avait fait sa vie à Lomé, un peu loin de sa famille. Et en fait, un beau jour, il y a eu une espèce de nuée d'abeilles qui s'est approchée de lui et qui lui a dit qu'il devait retourner dans le village natal pour prendre le flambeau et devenir lui-même chaman. Et au début, il n'a pas pris au sérieux cet appel. Et en fait, dans cette année-là, il y a eu une tornade dans le village où habitait son père et la forêt sacrée de son père a été en partie détruite. Et Atiti a interprété ça comme un signe qu'il devait du coup revenir chez lui. Et donc il est retourné, il a pris le flambeau et il y a eu cette transmission entre son père et lui. Et Atiti est devenu prêtre Fa. Au moment de le rencontrer, du coup, c'est Jules qui avait désiré cette cérémonie. Jules, en fait, il voulait voir Atiti parce qu'il avait l'impression d'être un peu comme hanté par des souvenirs du passé, de ne pas réussir à avancer encore une fois. Et il voulait s'en sortir. Et donc, il a convoqué Atiti pour l'aider. En fait, le prêtre Fa, il faut le voir un petit peu comme une sorte de consultant qui va pouvoir donner des conseils, divers conseils, soit psychologiques, soit économiques, soit des conseils sociaux. Donc, c'est vraiment comme... Voilà, c'est quelqu'un à qui on demande des conseils, c'est un consultant. Atiti, pour aider Jules, il a fait préparer avec nous, dans la forêt sacrée, à partir de plantes qui, je pense, avaient des vertus médicinales, une sorte de poudre qu'il a mis dans une grande cuve. Il a fait cuire ces plantes qu'il a broyées pour en faire de la poudre et pour en faire des cendres. Et ces cendres, il les a ajoutées à du dogojin, et on l'a bu, et cette potion, du coup, avait des vertus fortifiantes. C'était censé donner de la force à Jules, et nous, j'en ai profité, du coup, pour la boire aussi, en espérant recevoir un peu de force. Après qu'on ait bu cette potion, qu'on a sacrifié un oiseau, qu'on avait ramené justement à l'occasion de la cérémonie, le sacrifice de l'oiseau, il est assez particulier. Puisque le chaman, en fait, coupe la gorge, mais avec finalement beaucoup de douceur, coupe la gorge de l'oiseau, puis ensuite le jette au sol et le laisse agoniser à même le sol. Et en fonction de la position du corps au moment de son dernier soupir, il va interpréter des messages des divinités. La position de cet oiseau à ce moment-là, en fait, il avait atterri sur le dos avec les ailes un petit peu de travers, il était un petit peu écrasé sur lui-même. Et cette position-là, elle avait un sens. Le prêtre Fa a indiqué à Jules qu'étant donné la position de l'oiseau, il valait mieux qu'il fasse attention aux femmes qu'il fréquentait, à sa consommation d'alcool, au goudron au centre-ville, à la vitesse, aux motos, etc. Après le sacrifice de l'oiseau, on a recueilli en fait le sang de l'animal. Le chaman en a fait une potion qu'on a bu. À ce moment-là, ça a été assez difficile pour moi puisque donc j'étais végétarien. En plus, je m'apprêtais à devenir vegan. Et à ce moment-là, j'ai compris en étant au Togo que pendant ce voyage, en tout cas, j'allais devoir faire une parenthèse sur ce choix, notamment voilà à ce moment où j'ai bu du sang pour participer à cette cérémonie et vivre pleinement l'immersion aussi. Et le soir même, on s'est retrouvé avec Jules, qui avait demandé la cérémonie, et il nous a raconté un peu au coin du feu, un peu une sorte de conte comme ça qu'il avait vécu, pour nous prouver que le vaudou existait et que c'était des croyances qui étaient réelles. Il nous a raconté qu'un jour, il avait vu un chaman qui était arrivé devant lui avec une graine, qui lui avait dit « Je vais planter cette graine, et demain, un baobab de 5 mètres aura poussé ». Et Jules, qui à ce moment-là doutait de sa foi et doutait du vaudou, évidemment n'y a pas cru. Mais il est revenu le lendemain au même endroit et il nous a assuré, il nous a juré même qu'un baobab de 5 mètres avait poussé en une nuit à l'endroit même où il avait vu le chaman la veille. Moi, ça m'a fait douter. En même temps, c'était un professeur de mathématiques et de physique, donc je me doute bien qu'il sait que d'un point de vue scientifique, en tout cas, ces choses-là sont difficilement possibles. Mais en même temps, c'était dit avec une telle conviction, avec une énergie tellement troublante, en fait, que ça m'a laissé un souvenir spécial. J'ai pas réussi à savoir ce qu'il en était et si c'était vraiment arrivé. La deuxième personne vraiment marquante que j'ai rencontrée quand je suis parti là-bas, elle s'appelait Apu Kessi. C'est une femme prêtre qui devait avoir la cinquantaine quand je l'ai rencontrée. Ce qui est intéressant dans le vaudou, c'est que du coup, les femmes peuvent être prêtres. Mais par contre, très souvent, les femmes, elles sont associées à l'élément eau. Et c'était le cas d'Apu Kessi. Et elle a un couvent dans une ville proche de Kévé à Saoun, où elle pratique sa foi, elle pratique sa culture, elle a l'habitude d'organiser des grandes cérémonies dans ce lieu, mais au moment où on la rencontre, c'est une cérémonie plutôt confidentielle, plutôt intime. En fait, j'y vais un petit peu pour découvrir le vaudou. J'hésite à ce moment-là encore à demander une cérémonie pour moi, pour connaître par exemple ma maison Fa, peut-être recevoir aussi des messages des divinités vaudou. J'avais une certaine curiosité pour ça et à ce moment-là, je me posais encore la question de savoir si oui ou non j'allais moi-même demander une cérémonie. Et Apu Kessi, du coup, commence une cérémonie assez sobre. Elle porte un grand costume blanc et puis elle accueille un prêtre Fa avec son élève. Ils sont aux côtés d'Apu Kessi et ils la soutiennent en fait pendant ses rituels. La cérémonie commence. Elle porte des bijoux, elle se met à chanter, elle fait tinter une clochette dont on m'explique qu'elle sert à appeler les divinités et les esprits pour la cérémonie. Apukesi verse une potion aussi faite de d'eau et de talc qu'elle verse au sol pour les ancêtres. Tous les trois, donc le prêtre Fa, l'élève et Apukesi, se mettent à fumer aussi. La fumée a une symbolique spéciale aussi, spirituelle dans le vaudou. Il y a des sucreries, des bonbons, des pastèques, des aliments un peu plus étranges pour moi, qui n'ai pas l'habitude de les voir présentés aussi dans des rituels religieux. Voilà, la cérémonie commence. Et puis il y a l'élève du prêtre Fa, qui était une espèce de colosse de 2 mètres, très musclé, qui porte un pagne orange, qui est allongé sur 2 chaises en retrait de la cérémonie, de tout le long de son corps, et qui regarde le vide, les yeux ouverts, et qui semble dormir, avec une sorte de détermination dans le regard, que je ne savais même pas s'il était en train de me regarder, ou si juste son regard dépassait la sphère des apparences et de ma présence. Il m'intriguait, et j'arrivais pas trop à me concentrer sur la cérémonie, j'étais juste appelé un peu par ce regard. Et à un moment, l'élève se lève très brusquement, il renverse les chaises, et il se met à taper sur sa poitrine, très violemment, d'une manière qui semblait à la fois très désordonnée et en même temps très codifiée. Ça ressemblait à la fois à du chaos, à la fois à une danse, presque à une chorégraphie. Et il se met à courir en direction d'une marmite qui était sur le feu. Et avec la vitesse de sa course, au moment où il s'agenouille devant la marmite pour la vénérer, sa tête heurte le sol, un sol de pierre, avec une telle force. L'impact, il était tellement sourd. Enfin, ça m'a réveillé en fait de cette torpeur de la cérémonie. Et j'ai vu cet homme ne pas broncher, ne pas avoir mal une seule seconde, se relever, continuer à se taper le torse et à faire ces espèces de percussions contre lui-même, courir en direction de la sortie du couvent. Le prêtre Fa lui courir après pour l'attraper et l'agripper par les côtes, le tirer de toute la force physique dont il était capable vers un puits qui était dans la cour, allonger l'élève sur le puits, mais l'élève continuait de se débattre, il s'est relevé, le prêtre Fa a dû le rattraper, lui faire presque une sorte de prise pour le mettre à terre contre le puits, et puis lui a versé de l'eau comme ça sur le front, l'eau du puits, pour l'apaiser. Et en même temps que tout ce chaos, Apukesi était en train de crier sur l'élève, et Flo Flo m'a expliqué qu'Apukesi en fait lui hurlait dessus parce que l'élève était en train d'entrer en transe de feu dans un couvent élément eau, et c'est quelque chose qui est interdit dans le vaudou. Donc en plus de ce chaos de gestes, de mouvements, faut s'imaginer Apukesi en train de hurler et de proférer des paroles en éveil, et moi ne rien comprendre à ce qui se passe pendant plusieurs minutes, et être presque choqué par ce que j'ai vu, et surtout très marqué par cet élève qui n'a absolument pas ressenti la douleur au moment de sa transe d'élément feu. Mais par contraste, j'ai rencontré un chaman qui était très différent de cet élève. Un chaman qui, je pense, était vraiment l'incarnation et le stéréotype du vieux sage. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté. Jules était hyper admiratif de ce sage, donc qui s'appelle David, qui était un prêtre Fa, dont tout le monde nous a dit qu'il était centenaire, il avait les cheveux gris, il avait une peau qui était ridée. Je pense pas qu'il avait 100 ans, mais en tout cas spirituellement, il était centenaire. Et il avait une certaine expérience qui lui conférait une sorte de pouvoir d'immortalité aussi. Et c'est un prêtre qui nous a vraiment accueillis les bras ouverts, qui a vraiment cette volonté aussi de me permettre de comprendre le vaudou, là où j'avais pu parfois être vraiment face à une culture un peu hermétique, dont je me sentais à l'écart. David, il avait vraiment cette volonté de m'expliquer comment ça se passait. J'ai appris qu'il avait beaucoup de mal à transmettre justement la culture vaudou à jeunes générations, parce que les jeunes ont plein de craintes au Togo, mais notamment d'être considérés comme ayant une culture du passé, comme étant bloqués dans leurs traditions, comme étant à la marge de la mondialisation. Donc il y a de moins en moins de jeunes qui s'intéressent à ces sujets. Et ça a expliqué aussi que David soit si généreux avec nous. D'ailleurs, il parlait français, ce qui était un signe encore, de son ouverture d'esprit et son envie qu'il avait de transmettre. Et on fait une cérémonie donc avec lui, cette fois-ci à nouveau pour Jules, et David utilise plusieurs objets. Il a un collier de perles, ce collier de perles ça s'appelle un boumagan, et c'est un collier en fait qu'il tape au sol en même temps qu'il chante et qu'il fait des prières. Et à nouveau, en fonction de la position de ses perles et de ses moules, au moment où il tape une dernière fois le sol, il va interpréter des messages des divinités. Parallèlement à ça, avec sa main, il remue un paquet d'objets, des coquillages, des crucifix, des bouts de caoutchouc, des objets un peu mystérieux, et qui, pareil, lui permettent en fait d'entretenir sa connexion spirituelle. Et il nous explique du coup un peu comment fonctionne sa géomancie, comment est-ce qu'on fait de la divination par le sol, et il nous explique du coup ce système de signes en fait. Et il nous montre un vieux livre qui est écrit en français, qui est un livre qui a été écrit par des chercheurs justement alors que la France était encore très présente au Togo, qui détaille un petit peu tous ces symboles que David utilise. Donc il y a eu un vrai langage en fait autour de la géomancie, autour de la position de ces coquillages. Et ce qui est dingue, et ça a beaucoup fasciné Jules, c'est que la divination que David lui a faite était exactement la même que celle qu'il avait reçue avec le premier prêtre qu'on avait rencontré. Et pour Jules, c'était évidemment la preuve que le vaudou existait et que le vaudou était une vraie, était vraiment présent, puisque d'un village à l'autre, d'un bout à l'autre du Togo, il avait reçu le même message et ça contribuait encore à sa ferveur. Quand on a quitté le temple de David, je me suis retourné et je me souviens, son temple en fait était une petite maisonnette noire et il y avait une citation écrite sur le seuil de la porte qui disait « Rien ne mûrit sans le concours du temps ». Le soir, on était assez euphorique de la journée qu'on avait vécue. Moi, je ressentais, en plus de la chaleur, de l'humidité, une sorte d'énergie en moi d'avoir vécu toutes ces choses. On était déjà à plus de la moitié du voyage. Je pense que ça me faisait un peu perdre la notion de réalité. Et on avait l'habitude, avec les Togolais de l'association, d'aller dans un petit bar qui était géré par l'un d'eux, qui s'appelait le New Smile. Et le New Smile, c'était une sorte de club, donc à Kévé, dans la grande ville voisine. Le long du goudron, c'était un petit comptoir avec un petit toit et du togo-jin. Et un smiley au-dessus du comptoir qui rappelait le nom du coup du bar. Donc Guizo, qui était le gérant du bar, nous sert des togo-jin. Et en fait, assez rapidement, avec la chaleur, etc., je me retrouve avec donc Léo, l'autre reporter qui est parti avec moi en voyage. On se retrouve à être assez ivre. Il est minuit et on se dit c'est l'heure de rentrer. On était assez fatigués. On rentre avec Ekwe, et sur le chemin, Léo et moi, on entend au milieu de la jungle, au fin fond de la nuit, dans un endroit qu'on n'arrivait pas à distinguer à ce moment-là, mais on entend des percussions. Et on se regarde avec Léo, on se dit, on y va. On a couru au travers de la jungle, et les percussions sont devenues de plus en plus fortes à mesure qu'on s'approchait, et on arrive devant un bâtiment fait comme ça de plaques de tôle entassées les unes sur les autres, avec une lumière à l'intérieur. Et on n'a pas réfléchi une seconde, on rentre à l'intérieur pour voir qui fait cette musique. Et on se retrouve au milieu d'une cérémonie religieuse, voilà, en plein milieu de la nuit, avec un prêtre sur un autel, des pratiquants qui dansent, qui chantent, des enfants, des femmes, des adultes, des personnes âgées, qui sont pas en transe, mais qui dansent avec beaucoup de rythme, avec beaucoup d'énergie, sur des bancs qui ressemblent à des bancs de messe, en fait. On se retrouve en plein milieu de cette scène, avec le prêtre qui nous voit arriver, et qui lève les bras au ciel et qui nous dit oh, des blancs, c'est un symbole de la présence de Jésus. Il nous explique que c'est l'inauguration de son église et qu'il interprète ça comme un signe de la nécessité d'avoir créé cette église et d'avoir fait cette cérémonie inaugurale. On lui montre nos appareils photo pour savoir si on peut filmer et prendre des photos. Il acquiesce et il dit bien sûr, vous êtes les bienvenus. Et donc moi je me faufile à ce moment-là au fond de l'église parce que je commençais à être un peu ivre et j'étais très gêné en fait d'être au milieu de cette cérémonie. Et j'essaie de prendre quelques photos, mais à ce stade-là de la soirée, j'avais un peu du mal à faire le point. Et au bout de quelques minutes, je cherche Léo du regard et je lui fais signe qu'il est peut-être temps qu'on disparaisse discrètement. Il était à peu près dans le même état que moi et donc on quitte, on essaye de quitter l'église. Et à ce moment-là, le prêtre nous arrête et nous dit « Non, attendez, vous ne pouvez pas partir, vous devez nous faire un discours ». Il fait venir des chaises, donc des pratiquants en fait ramènent deux chaises, les posent sur l'autel, il nous fait nous asseoir. Et il nous demande de faire un discours devant tout le monde. On se regarde avec Léo. On avait déjà un peu de mal, en vérité, à marcher. Donc maintenant, on devait faire un discours, donc c'était un défi de taille. On se lève, on bredouille quelque chose. On les remercie pour leur accueil. On les remercie de nous avoir permis de prendre des photos. On est très content d'être au Togo, qu'on adore ce pays. Et le prêtre amplifie en criant tout ce qu'on dit. Et il a un traducteur qui traduit en criant plus fort encore, en éveil, tout ce qu'on leur raconte. Et on bredouille vraiment avec Léo des choses qui sont traduites très fort dans l'assemblée. Et l'assemblée, qui est déjà un peu énergisée, applaudit, crie à chacun des mots, chacune des paroles qu'on prononce. Et à un moment, l'énergie descend et la tension n'est plus trop sur nous. Et on réussit à s'échapper du coup par la petite porte. Et on se retrouve par contre maintenant au beau milieu de la jungle, en plein milieu de la nuit, sans savoir où on est, sans guide puisque Ekwe n'est plus avec nous, et un peu ivre. Et on se met à marcher comme ça dans la jungle. On essaye de trouver des repères. On remarque qu'il y a 3 baobabs. En vérité, à cette soirée-là, le tour des baobabs, on l'a fait au moins 20 fois. Je pense qu'on a mis plus de 3 heures à rentrer chez nous. Et on a fini par arriver à un moment, après s'être perdu pendant 3 heures, je pense à 200 mètres de la maison, mais c'était pas si facile de s'y retrouver. Puis on a dormi longuement. La dernière cérémonie qui a été vraiment importante, ça a été la rencontre d'un dernier prêtre Fa qui avait un couvent un peu plus loin de là où on habitait, qui était un couvent qui avait pour spécificité de pas être fait de briques et de broc. Donc il y avait quand même quelques installations, il y avait des peintures aussi. Donc ça m'a permis aussi de me rendre compte qu'il y avait un art vaudou, il y avait des divinités qui étaient représentées sur les murs, des serpents, des hommes âgés avec des cannes, différents animaux, Mami Water aussi qui était représentée sur l'une des façades. On entre dans ce couvent, on remarque dans la cour, il y a un veau qui est allongé et qui semble dans un état un peu lamentable. Et je m'approche du veau et je vois qu'en fait, il a une partie de sa patte qui est coupée. Et je comprends pas forcément à ce moment-là, puis je voulais interviewer le prêtre Fa sur le vaudou, donc c'était pas forcément l'objet de mon attention. Mais après 3 à 4 heures passées dans le couvent, je remarque quand même que le veau n'a toujours pas bougé. Puis je vois surtout qu'il y a des enfants qui se sont approchés de lui, au début gentiment, qui lui donnent à manger, mais qui progressivement commencent un petit peu à se chamailler avec lui, et puis peut-être un petit peu à lui faire du mal, comme on peut le faire quand on est enfant, et pas forcément bienveillant. Les enfants finalement se font chasser par l'un des habitants du village, et à ce moment-là, je me dis quand même, il faudrait que je parle de ce veau au prêtre Fa. Donc je vais voir le prêtre Fa, et le traducteur Flo Flo, en lui demandant, moi, qu'est-ce qui se passe avec ce veau en fait. Et on m'explique qu'en fait, c'est le veau d'un habitant du village, mais cet habitant du village s'est froissé avec un autre villageois. Cet autre villageois, pour se venger, il est passé dans son champ avec une machette et il a coupé un bout de la jambe du veau. Et le veau a été ramené chez le prêtre Fa, parce que le prêtre Fa a 2 casquettes. Il est à la fois le prêtre et il est à la fois le juge dans le village. Donc c'est lui qui rétablit la justice. Et le prêtre Fa, en fait, est censé prendre une décision sur la culpabilité ou non du villageois qui a coupé la jambe du veau. À ce moment-là, le prêtre Fa prend conscience, en fait, on s'inquiète un petit peu et décide du coup d'organiser le procès. Et on se retrouve dans la cour de l'école du village. Le prêtre Fa se met à la position du professeur devant le petit bureau et fait venir les 2 villageois. Pendant 30 minutes, le prêtre Fa pose des questions au présumé coupable, mais le présumé coupable ne dit rien, ne répond pas, il garde un grand silence. Au bout de 30 minutes, je ne sais pas si c'était volontaire, mais quelqu'un amène une bouteille de Togojin et sert à tout le monde des verres. Et on se retrouve du coup à boire de l'alcool. Et ce qui était un procès s'est transformé en espèce de petite soirée entre villageois, où tout le monde était un petit peu enivré, un peu festive, avec de la musique, etc. Et le veau, encore une fois, a été laissé de côté. Le lendemain, au réveil, le prêtre Fa retourne devant le veau, vient voir le village ensuite, et explique du coup au village que ce veau de vengeance, il va en faire un veau positif, il va le transformer en veau de paix. Il décide du coup d'achever le veau et de répartir les morceaux de viande de l'animal à certains villageois, aux coupables autant qu'aux propriétaires, mais aussi à nous. Donc on récupère comme ça des morceaux de ce veau et on retourne ensuite jusqu'à Kevea Saoun chez nous. Et ce soir-là, puisqu'on a du veau, il y a une espèce de cérémonie qui s'organise avec de la musique. On invite les voisins, d'autres personnes, d'autres ONG aussi qui sont présentes. Donc on se retrouve avec une trentaine de personnes autour d'un grand banquet avec des percussions, Dany, Jules qui dansent à fond, nous aussi, avec encore une fois un peu de Togojin, et à manger du coup ce veau qui est censé devenir un veau de paix. Et j'ai mangé de ce veau. On a beaucoup, beaucoup dansé ce soir-là, jusqu'à ne plus avoir d'énergie, je pense, jusqu'à plus de 4 heures du matin. Et je me suis réveillé le lendemain et je pouvais plus bouger. J'avais tellement de courbatures, plus aucune énergie, j'avais mal aux os. Même le contact avec le matelas était douloureux. Et j'entendais, d'habitude la maison était assez animée, mais là j'entendais un grand silence dans la maison. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, personnellement, je pensais que j'étais en train de mourir parce que j'avais vraiment plus rien. Et ça a duré comme ça pendant 2 jours, et pendant 2 jours, j'ai vu personne. Et au bout de 2 jours, je ressors un peu comme un mort-vivant parce que je commençais à entendre du bruit dans la maison. Et je me dis, tiens, il y a à nouveau de la vie. Et je me lève, mais j'arrivais à peine à marcher, donc je boitais. Et je comprends ce que j'avais pas forcément compris à ce moment-là, qu'en fait, le veau qu'on avait mangé, du coup, ce qui était resté longtemps en extérieur, est devenu un peu une viande avariée. Et en fait, on en avait tous mangé. Et donc, on a tous été malades pendant plusieurs jours, très fortement. Et ça a marqué aussi la fin, voilà, de ce séjour. Et je suis rentré après à Paris avec tous ces souvenirs en tête et un peu transformé aussi par tout ce que j'avais vécu.
Merci beaucoup pour ton récit. Pourquoi t'as voulu raconter ce voyage en particulier ?
Ce voyage, c'était le premier véritable voyage que j'ai fait. Avant ça, j'étais parti avec mes parents, principalement en fait dans des pays d'Europe. Et j'avais pas eu l'occasion de partir seul, de partir un peu à l'autre bout du monde aussi. Donc partir au Togo et raconter ce voyage, ça faisait du sens pour moi. Je considère aussi que c'est le voyage dont j'ai tiré le plus d'enseignements, qui m'a le plus influencé encore aujourd'hui dans ce que je suis, dans les choix que je fais. C'est la cosmogonie vaudou aussi qui, dans sa poésie aussi, m'a beaucoup nourri, même dans mes travaux plus créatifs et d'écriture. Donc c'était une manière pour moi aussi, en le racontant, de rendre hommage à tout ce que j'ai vécu pendant ces 6 semaines.
Est-ce que le vaudou, c'est vraiment partagé par tout le monde au Togo, ou est-ce que c'est seulement ceux et celles qui le pratiquent ?
C'est complexe comme question, parce que le vaudou, c'est à la fois la culture des Togolais et à la fois une religion. Donc tous les Togolais sont de culture vaudou, puisque c'est leur origine en fait. C'est leur histoire, leur patrimoine, c'est l'héritage qu'ils portent. Mais tous les Togolais n'ont pas forcément le même rapport à cet héritage. Il y a des Togolais qui sont plutôt dans le rejet. Les jeunes, par exemple, qui veulent pas être à la marge de la mondialisation. Les personnes plus âgées, généralement, elles sont davantage dans la pratique du vaudou. Et puis, il y a une classe d'âge un peu entre deux, dont font partie les Togolais de l'association que j'ai pu rencontrer et dont j'ai parlé, qui, eux, sont à la fois très croyants et à la fois dans des situations un peu paradoxales où, quand le prêtre Fa leur donne des interdits, ils vont pas forcément les respecter. Donc ils incarnent bien cette tension aussi entre deux générations, mais aussi entre deux postures qu'ont les Togolais vis-à-vis de leur propre culture.
Tu disais que grâce à ta mère, t'étais parti un petit peu moins en touriste. De manière générale, à quel point tu prépares tes voyages et quelle place tu laisses à l'improvisation ?
Quand je suis parti pour écrire mon documentaire sur le vaudou, je m'étais quand même beaucoup documenté sur le vaudou, sur le Togo. J'ai regardé pas mal de documentaires, de vidéos sur le sujet, des reportages. Ce travail de documentation, il est assez préparé de mon côté. Après, je laisse de la place à l'improviste de deux manières. C'est-à-dire que comme je suis quelqu'un qui aime bien être un peu sur les rotules et un peu en mode survie, c'est vrai que la partie administrative, l'organisation du voyage en tant que tel, le choix des vêtements, les différents vaccins, etc., j'étais plutôt pas disposé à le faire. Par contre, il y a un improviste qui est plus positif, qui est le fait que j'aime bien lâcher prise. Et quand je suis parti au Togo, j'avais vraiment cette envie de partir à l'aventure et j'étais ouvert à toutes les opportunités qui s'offraient à moi. Je voulais vraiment vivre un maximum de choses en un temps restreint, en 6 semaines. Et ça passait forcément par le fait de laisser une place à l'improviste. En tout cas, pour un premier voyage. Après, si j'y retournais, et c'est l'ambition que j'ai, ce serait probablement davantage préparé. J'irai pour une raison plus précise aussi, qui est l'écriture enfin le tournage de mon documentaire.
Qu'est-ce que tu vas toujours prendre avec toi dans ton sac quand tu voyages ?
Je prendrai toujours un appareil photo, je prendrai toujours des stylos et des crayons avec un carnet de notes. J'aurai toujours aussi un appareil photo qui permet d'imprimer des photos directement, enfin un Polaroid, pour pouvoir en donner aussi aux personnes que je photographie. Parce que la position de l'appareil photo, notamment au Togo, mais dans plein de cultures, elle est toujours un peu problématique. Parce que pour plein de personnes, le fait de rendre visible l'invisible, c'est un acte de profanation. Et c'est important du coup de pouvoir leur donner aussi des images pour qu'ils comprennent ce qu'on a photographié, ce qu'on en fait, ce que ça signifie aussi. Et parfois, ça peut justement atténuer cette appréhension.
Justement, pour rester sur l'appareil photo et la photo, est-ce que tu as un médium préféré pour raconter tes voyages et de quelle manière tu racontes tes voyages ?
Je suis pas sûr d'avoir un médium préféré pour raconter mes voyages. Par contre, je pense que à différentes envies vont correspondre différents médiums. Quand je suis parti au Togo, le médium que j'ai beaucoup utilisé, c'est la vidéo et l'écriture, mais plutôt sous forme de... Je filmais un petit peu tout ce que je voyais, je prenais en note tout ce que j'entendais, tout ce que je comprenais. Et c'était pratique parce que j'étais plus dans une phase de recherche, donc c'était un peu touffu. J'utilisais le médium de manière un peu pour documenter. Quand je suis revenu du Togo, à mon retour de voyage, le médium qui m'a semblé le plus approprié, c'était de raconter. Donc j'avais déjà, à ce moment-là, commencé à raconter certaines des anecdotes de mon voyage. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que l'idée d'utiliser le médium du podcast m'était venue, parce que je l'avais raconté mon voyage à quelqu'un qui m'avait dit « Tiens, mais c'est marrant parce que juste écouter ce que tu racontes, ça m'aurait plu aussi. » Quand je lui parlais de faire un documentaire plus abouti sur le sujet. Donc je trouve aussi que le podcast est un médium intéressant, surtout pour parler du Togo, parce que quand on utilise un médium oral, immédiatement ça invoque une tradition, ça invoque le conte, ça invoque un imaginaire qui est proche aussi du vaudou, donc le médium résonne bien avec le contenu, donc je trouve ça intéressant.
Une fois que t'es de retour au pays, comment tu gères le retour? Et est-ce que tu as atteint du blues post-voyage? Si c'est le cas, comment tu te soignes?
Quand je suis revenu du Togo, en vérité, j'avais l'impression d'avoir tellement vécu de choses là-bas que c'est comme si j'avais gagné 1000 ans en 6 semaines. Donc j'ai pas eu de blues, j'ai plutôt eu une grande euphorie et j'ai senti en tout cas les premières semaines du retour que j'avais gagné en assurance, gagné en confiance, que plein de choses pour lesquelles je pouvais avoir de l'appréhension me semblaient maintenant anecdotiques. Le blues du voyage, je l'ai eu par contre, mais je l'ai eu longtemps après, je l'ai eu pendant le confinement, justement à un moment où on pouvait plus voyager, où j'étais enfermé chez moi, et je me suis mis à repenser au Togo, à repenser à ce voyage. C'est le moment où j'ai recommencé à écrire et à avancer sur mon projet. En fait, l'écriture, ça a été un moyen justement d'atténuer ce mal du voyage, en me replongeant dans le séjour au Togo, en écrivant dessus, et à certains moments de l'écriture, j'avais l'impression presque d'y être à nouveau. Donc c'est comme ça que j'ai soigné ce mal.
Comment tu considères la rencontre en voyage? Et est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué?
Oui, justement pendant ce voyage au Togo, je pense que la rencontre qui a été la plus marquante et la plus constructive, parce qu'elle continue de me suivre, ça a été la rencontre avec Léo, l'autre reporter qui est parti parallèlement à moi. Il avait son propre projet, lui était plutôt sur du reportage photo, documenté avec des ambiances sonores. Moi, j'étais vraiment là pour écrire et puis documenter avec de la vidéo. On n'avait pas le même médium et on n'avait pas les mêmes visions d'ailleurs, les mêmes points de vue sur le vaudou et sur ce qu'on voyait. Enfin, Léo a été très souvent pour moi un peu une sorte de mentor, quelqu'un qui avait plus d'expérience aussi techniquement, mais aussi plus d'expérience de voyage, et qui à des moments où j'étais peut-être plus dans le doute, peut-être un peu dans la peur et l'appréhension, c'est quelqu'un qui a été assez rassurant. Et je pense que ce rôle de binôme et voilà, même de mentor qu'il a eu a été assez important, et ça en a fait une rencontre qui encore aujourd'hui me suit, puisqu'on est toujours en contact et on s'appelle régulièrement, on continue à échanger sur nos projets.
Pour se parler justement de tes futurs projets, tu évoquais tout à l'heure que tu comptais retourner au Togo. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
Ouais, effectivement, j'aimerais repartir au Togo l'été prochain pour faire un documentaire sur Lomé cette fois-ci, sur la forêt sacrée en particulier. La forêt sacrée, c'est un lieu qui est assez spécial à Lomé parce que c'est le lieu de culte dédié au vaudou. Et c'est un lieu dans lequel officient uniquement des femmes prêtres. C'est un lieu qui est en plein milieu du centre-ville, et pour plein de raisons, mais notamment d'urbanisme, des raisons économiques, des raisons sociales aussi, j'ai évoqué le malaise des Togolais vis-à-vis de leur propre culture. Cette forêt sacrée, elle a un statut un peu spécial dans Lomé, un peu polémique même. Et il y a deux ans, en fait, des habitants du quartier de B ont manifesté contre le gouvernement, et le gouvernement a envoyé l'armée pour chasser les manifestants. Les manifestants se sont réfugiés dans la forêt sacrée, avec la bénédiction des femmes prêtres. Mais l'armée, malgré les interdits des femmes prêtres, est entrée pour chasser les manifestants. Les femmes prêtres ont décidé du coup de maudire les militaires. Et il semblerait que tous ces militaires soient décédés du coup, des fruits de cette malédiction. Moi, ce que j'aimerais, c'est enquêter sur la disparition de ces soldats, retrouver la trace de ces personnes, où est-ce qu'ils sont, qui ils étaient. Quel a été aussi l'impact de cette malédiction sur les familles, sur les personnes alentour. Et déplier au travers de cette histoire et de cette enquête les sujets qu'agrège la forêt sacrée. Et notamment la question, je pense, importante des Togolais à leur propre culture et la relation parfois de rejet qu'ils peuvent avoir avec leur propre identité.
Écoute, on arrive à la fin de cet entretien. Donc tu as un petit espace qui t'est réservé, dans lequel tu peux partager une dernière recommandation, une anecdote, un proverbe, citation, c'est à toi.
En ce moment, il y a une citation justement que j'ai évoquée qui me parle particulièrement, qui est la citation qui siégeait sur le temple de David, ce vieux sage centenaire vaudouisant dont j'ai parlé. La citation qui dit « Rien ne mûrit sans le concours du temps. Je suis quelqu'un de très impatient et depuis quelques semaines, j'apprends la patience. Et cette citation, elle m'est revenue à l'esprit assez régulièrement. C'est elle qui me porte ces derniers jours.
Merci beaucoup.
Et voilà, c'était Bourlinguer, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui voyagent. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Merci également à mon invité pour sa chouette histoire. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner au podcast sur votre application d'écoute préférée. Vous pouvez aussi écouter Bourlinguer sur la web radio Voyage, Allô la planète. Vous pouvez également suivre le podcast sur Instagram, bourlinguer.podcast. Ah oui, une dernière chose. La musique que vous entendez derrière s'appelle « J'ai bourlingué ». Elle a été écrite et interprétée par Serge Raphaël. Merci à lui.